chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, ainsi que Radio Mono, à Châlons-en-Champagne, je vous dis bonjour. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas eu. La semaine dernière, on avait fait une rediffusion de l'émission sur l'Afrique. Radio Mono, c'est 90.6 à Châlons-en-Champagne, je le reprécise, puisque désormais Mets de Résistance passe sur deux radios. Je l'avais déjà dit il y a quelque temps, à Radio Galère, bien sûr, le lundi de 19h à 20h, et avec rediffusion le mardi matin de 7 à 8, et puis le jeudi soir, une fois tous les 15 jours, sur Radio Mono, donc 90.6 Châlons-en-Champagne, entre 20h et 20h30 et 21h. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer notre périple à travers des économies africaines, en évoquant cette fois-ci, comme je l'avais dit la dernière fois, les modèles inclusifs de développement asiatique. Puisque on s'interrogeait les semaines précédentes sur la manière dont l'Afrique et les différents pays africains, malgré leurs différences, pouvaient s'en sortir en tenant compte de leurs vraies richesses et des externalités positives qui ressortaient de leur culture, de leur organisation sociale et de leur aménité environnementale. Et nous allons aujourd'hui essayer de voir justement si l'Afrique peut aussi s'en sortir, comme l'a fait l'Asie, par un modèle de développement inclusif. Le continent asiatique est marqué par un processus de développement qui repose sur un modèle de croissance inclusive. Il comporte, selon Gilles Dufresneau, économiste, 4 phases et pourrait être importé avec succès par les pays africains. Je rappelle que l'objectif de l'émission, c'est d'essayer de faire un diagnostic des économies africaines. Et je dis africaine, mais en fait c'est un peu réducteur parce que ça regroupe derrière le mot africaine, il y a plusieurs réalités différentes puisque chaque pays africain a des caractéristiques qui sont différentes des autres. Mais malgré tout, il y a des points communs qu'il faut exploiter et qu'il faut dans lequel on peut s'investir pour dégager quelques généralités. Et donc l'objectif de l'émission, c'est de faire un peu ce diagnostic-là et d'essayer de voir comment l'Afrique peut s'ouvrir encore davantage au développement. Rassurez-vous, nous ne sommes plus dans les années 70. Aujourd'hui, l'Afrique est quand même beaucoup développée que dans les années 70. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est un continent qui est très actif et extrêmement dynamique et créatif. Il y a malgré tout un certain nombre de traits communs qui en ressortent, qui pourraient mettre en avant le principe selon lequel il y aurait un mode de développement à l'africaine qui ne ferait que le mode de développement à l'occidental, comme on a si longtemps voulu l'appliquer aux économies africaines à tort, ça a fait beaucoup de mal, existe. Et donc ce modèle de développement africain se fonde sur certains paramètres bien particuliers. Et j'ai dit qu'on avait cru à tort qu'il y avait un modèle de développement unique qui serait celui des pays les plus avancés économiquement et socialement, c'est-à-dire les pays occidentaux, et que on avait eu tort de vouloir l'appliquer aux économies africaines dès les années 70. Mais j'oublie de dire que ce n'est pas que pour l'Afrique, ce n'est pas que avec les pays occidentaux qu'on compare l'Afrique. On compare souvent l'Afrique à d'autres États qui sont d'Amérique du Sud ou qui sont d'Asie, en faisant croire qu'il y aurait une économie du développement, une économie des pays en développement, à proprement parler, qui serait particulière et de laquelle on pourrait dégager des généralités qui seraient applicables telles quelles à chaque État. Ce qui est complètement faux, il me semble faux, en tout cas c'est du moins ce que je voudrais qu'on essaye de déterminer aujourd'hui en comparant le modèle de développement inclusif asiatique à celui de l'Afrique. Donc, on va redéfinir la croissance inclusive. C'est une croissance qui se définit par la prise en compte des caractéristiques de chaque territoire, de son histoire, de sa population, avec ses coutumes et ses modes de vie. Elle ne se contente pas de perspectives macroéconomiques, mais part d'abord des économies locales autour d'une discipline scientifique qui est l'économie territoriale et du développement. Elle tient compte de toute création de richesses, même à toute petite échelle, pour qualifier l'activité économique globale du territoire, laquelle forme, par adjonction avec celle des autres territoires de l'État-nation concerné, une économie nationale. Et j'avais expliqué la dernière fois que dans cette logique, l'enjeu des critères et des indicateurs de comptabilité nationale est fondamental, car il se doit de prendre en compte toute création de valeur ajoutée, même contenue dans l'économie informelle. Donc l'économie informelle, c'est très important, il faut l'intégrer à notre comptabilité nationale. J'allais dire, chez nous c'est pareil, il y a beaucoup d'économies informelles qui, si on en tenait compte, à commencer par le bénévolat dans les associations, qui si on en tenait compte, créerait beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses comptabilisées dans le produit intérieur brut. Il y a beaucoup de gens qui vivent de cette économie informelle, pas complètement, souvent à moitié ou au quart. Pour certains, c'est complet, mais enfin, c'est quand même assez rare. Et donc, je ne vois pas pourquoi on n'en tiendrait pas compte. Le continent asiatique est marqué par un processus de développement qui repose sur un modèle de croissance inclusive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Gilles Dufresneau, je le reprends ce que je disais tout à l'heure, a déterminé 4 phases de ce modèle. Pour lui, un pays commence par produire des matières premières, il importe des produits manufacturés des nations industrielles. Puis il fabrique ses propres biens de consommation et protège ses secteurs nationaux de la concurrence extérieure, tout en continuant à importer des biens, d'équipements. Durant la phase suivante, il se met à fabriquer des biens d'investissement et entre en concurrence avec les mêmes biens étrangers. Enfin, il devient exportateur de biens d'équipement et de biens de consommation. Dans de nombreux pays d'Asie, ce capitalisme confucianiste semble avoir promu une croissance inclusive en augmentant l'emploi et en élevant le degré de qualification des travailleurs, en améliorant la santé des populations et en facilitant l'accès au crédit, ainsi qu'en améliorant l'accès à l'eau potable et à des infrastructures énergétiques. Donc, on peut discuter de ça. On dit que c'est un modèle de croissance inclusive. Moi, je ne trouve pas. Je pense que c'est un modèle de croissance qui repose quand même beaucoup sur les importations et les exportations, même si au départ, il est vrai que pour décoller, pour faire son take-off, un pays a quand même besoin de produire de lui-même, de commencer par développer son agriculture et pas produire et en tout en important les biens d'équipement dont il a besoin. Il ne peut pas tout faire tout de suite. Mais là où je critique, parce que c'est vrai que moi, pour moi, le développement, ça commence par l'économie du territoire, donc par développer l'économie en local, d'abord par l'agriculture et par l'autosuffisance alimentaire, puisque la souveraineté alimentaire, c'est quand même un objectif qui doit être prioritaire dans les politiques de chaque État. Et ensuite, on passe... Alors, malheureusement, aujourd'hui, on le sait, c'est un peu moins le cas, mais aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de... Il y a quand même beaucoup d'agriculture qui n'est pas l'agriculture destinée à l'alimentation des populations locales, mais souvent de l'agriculture qui est destinée à la grande exportation. C'est d'ailleurs une des principales raisons qui fait que les populations en Afrique sont mal nourries et que les économies africaines ne fonctionnent pas toujours bien. Donc, je suis entièrement d'accord avec Gilles Dufresneau pour dire qu'on commence par produire des matières premières en important des produits manufacturés. C'est ce que je disais lorsque je disais il y a 15 jours que pour qu'une nation fonctionne bien, un État africain fonctionne bien, lorsqu'il a beaucoup, beaucoup, lorsqu'il est très convoité par les Occidentaux, parce qu'il possède des gisements de matières premières, des gisements de gaz naturel, de pétrole ou de minéraux, eh bien, cet État-là a tout intérêt à conserver les fruits de ses exportations pour se constituer une rente, tout en privilégiant son agriculture. Il y a beaucoup de, et le problème, c'est que beaucoup d'États africains ont vécu un peu sur leur laurier et se sont contentés de l'apport de devises et de l'apparence de puissance que pouvait leur apporter le fait d'être riche en minéraux et en matières premières. Et ça a fait quelque chose, ça a créé un impact négatif sur les économies africaines, puisque avec beaucoup de déséquilibres et très peu d'économies destinées au développement des territoires et des infrastructures en local. Ça a surtout servi à enrichir un peu les dirigeants et surtout les pays occidentaux qui se sont servis. Donc, je suis quand même d'accord avec Gilles Dufresneau, mais je trouve qu'il n'insiste pas suffisamment sur la nécessité pour un État de commencer par développer son économie territoriale et sa souveraineté alimentaire et ensuite en matière de biens manufacturés. Il doit, normalement, dans le développement, on doit passer tout de suite de la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire. Tout en étant vigilant à l'écologie, on l'a dit la semaine dernière, c'est une nouvelle donnée à laquelle les États africains peuvent s'adonner un peu plus librement que chez nous parce qu'ils sont moins industrialisés. Et puis, dans un deuxième temps, il faut vite passer à la production de biens manufacturés qui servent d'abord prioritairement au marché interne, au marché national, et qui ensuite peuvent être exportés. Voilà, donc c'est de la critique que je poserai. Pour moi, un modèle de croissance inclusive, c'est un modèle qui commence déjà d'abord en local. N'empêche que le mérite de Gilles Dufresneau, lorsqu'il évoque le modèle de croissance inclusive du continent asiatique, c'est qu'il s'intéresse à un nouveau modèle de croissance qui n'est pas celui de Rostow. Ce modèle de croissance est une façon de rompre avec la division internationale du travail qui emprisonnait les pays dans la phase 1 du développement à la Rostow. Je peux vous rappeler, si vous le souhaitez, chers auditeurs, à nouveau quelles sont les différentes phases du développement de Rostow, puisque c'est vieux, on l'a expliqué il y a déjà 2 mois. Puisqu'on a eu les vacances entre temps, donc ça fait un petit moment. La thèse de Rostow, il faut savoir que avec son modèle de décollage, Rostow a eu beaucoup beaucoup de succès. C'est un des modèles historiques de croissance économique. Il avait publié un livre en 1960 qui s'appelait Les étapes de la croissance économique, où il soutenait que toute élévation d'un niveau de richesse passait nécessairement par 5 phases de durée différentes. La première phase, c'est la société traditionnelle avec une limitation des productions. Ensuite, l'accumulation des conditions préalables au démarrage, transition entre la société traditionnelle et la société industrielle. On contrecarre la théorie des rendements décroissants qui avait été développée par plusieurs économistes, dont Jean-Baptiste Say, je crois. Et puis ensuite, on assiste au démarrage économique, lorsque les forces du progrès économique en viennent à dominer la société et la croissance devient la normale, alors qu'elle avait été quasiment absente des siècles passés. Et ensuite, on arrive à l'accès à la maturité, avec un progrès continu, un taux d'investissement du revenu national qui se stabilise entre 10 et 20%, ce qui assure que la production dépasse régulièrement l'augmentation de la population et permet une augmentation nette du revenu par tête. Voilà. Les rendements décroissants, on va quand même vérifier, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que je ne me souviens pas de tout par cœur. Les rendements décroissants, c'est une théorie. Sur les rendements marginaux, c'est Marshall. Oui, c'est d'abord des économistes qui se sont beaucoup occupés de la production et du commerce des céréales, dont Turgot, Von Thunen et David Ricardo, qui ont parlé les premiers de rendements décroissants. C'est eux qui ont commencé par l'expliquer en disant qu'on arrivait à un état stationnaire au niveau de la croissance économique mondiale. Si on continuait à exploiter une parcelle de terre, elle finissait par produire de moins en moins. Donc il y a une courbe qui monte jusqu'à ce que le rendement devienne décroissant parce que la parcelle de terre est devenue moins productive. Voilà. Donc j'en reviens au modèle de croissance inclusif asiatique. En Asie, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a une société qui est très différente des sociétés africaines, avec une culture différente, une histoire économique qui est très différente, quoique très riche en mercantilisme, en échanges marchands, et en échanges notamment mondiaux, puisque ça avait déjà commencé à l'époque, et ça allait jusqu'en Afrique. Et c'est une société qui fonctionne de manière très différente, avec des valeurs différentes. On nous dit que pour en revenir à Rousteau, qu'une façon plus internalisée de définir et de faire s'auto-réaliser les perspectives d'une croissance fortement enracinée dans l'histoire et la géographie du pays, le fameux take-off qui résulterait d'après Rousteau d'un moment magique ou après que le détonateur lançant la fin des premières phases après le passage d'une société dite traditionnelle à une société dite agrarisée autour de laquelle se développe l'artisanat, ne devient rien d'autre qu'un État qui s'industrialise pour participer à la concurrence internationale sur un mode de concurrence imparfaite, forcément moins bien loti que ceux qui s'y sont mis 2 siècles avant lui et forcément redevable à toutes ces sociétés étrangères qui se sont implantées chez lui pour l'aider à l'industrialisation et embaucher à moindre coût, et forcément dépendant des pays les plus développés, puisque principalement producteurs, forcément pas de biens à plus forte valeur ajoutée, qui font du bien au revenu national, mais simplement de composantes qui permettent aux pays les plus nantis de se procurer de ceux-ci pour le moins cher possible, compte tenu de la concurrence internationale. Alors ça, c'est l'écueil dans lequel sont tombés beaucoup de pays de l'Est, quoi, qui sont en train quand même de se relever. L'Union européenne essaye de mettre en place des paramètres pour qu'ils se relèvent, mais c'est pas encore la panacée. Beaucoup de pays d'Europe de l'Est sont devenus de simples fournisseurs des pays les plus développés de l'Union européenne. Ils produisent des composantes donc qui ne sont pas vendus très cher, qui n'ont pas une forte valeur ajoutée, et les États les plus industrialisés les rachètent, et à partir de ces composantes, effectuées en sous-traitance, en quelque sorte, c'est une sous-traitance mondialisée, ils produisent, ils les assemblent avec d'autres composantes, ce qui leur permet de fabriquer des biens et à forte valeur ajoutée qu'ils vendent très cher et qui les enrichit leur PIB. Les États asiatiques, eux, ont réussi à éviter cet écueil, même s'ils se sont alignés sur le modèle occidental très très rapidement. Ils ont développé des réseaux et des organisations entre entreprises qui leur ont permis s'entraider entre eux. Et de ne pas devenir des sous-traitants. Mais il y a eu quand même une période dans les années 70-80, avant leur take-off, où ces pays-là ont quand même été les sous-traitants des pays les plus industrialisés. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On remarque bien qu'il y a des grands groupes asiatiques, et pas que japonais ou chinois, taïwanais, thaïlandais. On voit bien que les États, il y a eu une solidarité entre États asiatiques. L'Afrique, elle aussi, quelque part, est un peu la sous-traitante des pays les plus occidentalisés, mais elle n'a pas pu, elle n'a pas réussi à s'organiser de la même manière que les pays asiatiques pour créer ces fameux réseaux. On oublie souvent que les pays dont j'ai parlé, les pays les moins développés qui sont sous-traitants, ont dû faire le choix entre deux ou trois groupes de pays qui produisent et vendent sur leur sphère respective, parfois sur l'intégralité du globe, avec une forte concurrence, vite encadrée par l'OMC, avec des composantes différentes, afin de compliquer encore davantage la concurrence internationale, occasionnant encore par là un fort gaspillage qui n'apporte par ailleurs rien de plus aux pays ainsi esclavagisés. Donc là, je critique en fait ce phénomène de sous-traitance pour dire qu'en fait, il y a une forme de guerre économique mondiale nouvelle qui s'est développée ces dernières décennies entre États du monde. La guerre aux composantes, c'est une arme de guerre que de décider de nouvelles normes et de les imposer dans sa partie de son monde et dans les pays qui en produisent les composantes. Et c'est un enjeu très important sur le plan géopolitique, puisque on va produire des produits à haute valeur ajoutée et qui sont très importants pour faire fonctionner les sociétés, aussi bien au niveau des infrastructures publiques que des grandes entreprises. Et en fait, elles ne vont pas être compatibles dans le monde entier. Donc ça va occasionner un gaspillage. Et ce gaspillage, il est encore une fois lié au fait que dans le monde, on réagit et on paramètre tout sur un mode de concurrence entre États et civilisations et non pas sur un mode de coopération. Les économistes japonais des années 90, période où le Japon venait de vivre une productivité et une croissance florissantes, fidèle à Kaimatsu, qui dans les années 30 croyait que le progrès technique, sorte de manne providentielle, se diffusait partout librement des pays développés aux pays les moins développés et comparait les voies de diffusion de celui-ci à celles des vols d'oies sauvages d'un État à l'autre. Ainsi, pensait-il que le Japon pouvait recevoir des bienfaits de la grande vague d'innovation qui sévissait à l'époque dans la Silicon Valley en Californie, endroit particulièrement propice à l'expansion de l'outil informatique. Le développement, selon lui, provenait donc principalement du progrès technique. Il suffisait de développer les mêmes modèles entrepreneuriaux d'un pays à l'autre, quelles que soient ses caractéristiques, pour que le développement fonctionne de la même façon. Il n'était pas le seul à le penser. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Kaimatsu a écrit, a publié ses travaux dans les années 30, alors qu'un tout petit peu plus tard, et dans les mêmes périodes, nous avions Karl Polanyi qui publiait La Grande Transformation et ses autres ouvrages. Karl Polanyi qui a toujours été un peu mis de côté en France. On ne parle jamais de lui au lycée en classe de sciences économiques et sociales. On n'en parle pas beaucoup à la fac non plus, alors que c'est un économiste qui était exceptionnel et qui avait compris beaucoup de choses. Si je dis ça, c'est parce que Karl Polanyi, lui, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, lui, qui a compris qu'il fallait commencer par l'économie du territoire pour réencastrer l'économique, le politique et la société, et faire en sorte que la sphère économique soit pas complètement déconnectée du reste du fonctionnement des humains. Cet économiste, qui est à bout, dont on parle jamais, vivait dans un milieu occidentalisé, avec des économies occidentales qui étaient déjà très développées. Le Japon de Kaimatsu, dans les années 30, lui, n'était pas le Japon d'aujourd'hui, qui est modernisé et qui s'est très fortement adapté à sa manière au capitalisme international. À l'époque de Kaimatsu, le Japon, c'était un Japon qui était encore presque moyenâgeux et traditionnel et qui avait été fortement heurté par les agissements des Occidentaux et qui se méfiait d'eux tout en étant en même temps fasciné par eux et par leur modèle de fonctionnement économique et social. Et donc, il faut comprendre pourquoi Kaimatsu à l'époque parlait du vol des oies sauvages et pensait à cette sorte de fascination que l'Occident pouvait pouvait apporter aux Japonais. Voilà. Alors, effectivement, le progrès technique, ça apporte de la formation aux individus et ça augmente le capital humain et l'expérience de vie. Mais le modèle de Keimatsu, comme je viens de le dire, est quelque peu maladroit, car il part du principe selon lequel une configuration... Enfin, il est maladroit à notre époque, si on le suit, mais bien sûr, il est un peu tombé en désuétude quand même. Mais quand même, dans les années 90, on en parlait beaucoup, c'était revenu au goût du jour. Notamment quand on parlait de la Silicon Valley et de l'impact qu'elle pouvait avoir de l'autre côté du Pacifique sur les pays asiatiques voisins. Ce qui est vrai d'ailleurs, sur le plan informatique, bien sûr. Donc le modèle de Keimatsu est maladroit, il part du principe selon lequel une configuration économique fondée sur l'industrialisation est transplantable de partout, ce qui justement a conduit à la prolifération de sites industriels dans les pays africains qui n'ont pas suffi à créer le tissu économique nécessaire au développement. Pire encore, une partie d'entre eux relève principalement des investissements directs à l'étranger, les IDEA, lesquels ne profitent qu'aux pays majoritairement riches et de provenance. Par ailleurs, ce type de modèle de croissance repose sur un postulat imposé et quelque peu excessivement économétrique de deux facteurs de production, le capital et le travail. Voilà, donc ça c'est pour dire que notre modèle de production, qui repose sur la fonction de production de Cobb Douglas qui relie le capital et le travail pour expliquer la création de richesse, est un modèle qui a quand même fait ses preuves, qui était très valable au 19e, 20e siècle, mais aujourd'hui je pense qu'il conviendrait d'évoluer un peu et de faire évoluer la notion de facteur de production. Je pense qu'il n'y a pas que un facteur de production unique, je pense qu'il y en a plein d'autres. Pour moi, le facteur foncier est un facteur de production qui est à prendre en compte, pas seulement en agriculture comme troisième facteur, mais aussi dans le reste de l'économique, parce que les entreprises doivent aujourd'hui faire attention à l'environnement. Et donc, pour moi, tout ce qui est environnemental, ça devrait être ajouté au facteur foncier. Le facteur foncier comprend actuellement les terres et les plantations pérennes, ainsi que les bâtiments lourds. Je pense qu'on devrait aussi lui rajouter l'environnement. Donc c'est un facteur qui est très important aujourd'hui. Les entreprises perdent de l'argent à cause de l'environnement parce que soit elles doivent payer des taxes, soit elles doivent mettre en place des dispositifs qui leur évitent de polluer ou modifier leur mode de production et ça leur coûte cher. Soit elles gagnent de l'argent grâce à l'environnement parce que ça leur donne une bonne image de marque ou parce que elles rajoutent à la création de richesse des produits dits écologiques qui sont très populaires aujourd'hui. Donc voilà pour le facteur foncier. Ensuite, je verrai aussi donc le capital physique, qui est le capital tout court, ce qu'on a jusqu'ici appelé le capital, avec l'immobilier, les matériels de production, les biens durables, etc., qui s'accroît avec l'investissement et qui peut décroître au fil du temps parce qu'il y a une dépréciation du capital et donc celui-ci doit être amorti. Il y a ensuite le capital humain, ce qu'on appelait jusqu'ici le facteur travail, qui correspond aux connaissances accumulées par les humains. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Je parlais des différentes sortes de capital. Il y a le capital humain, qui a distingué du facteur travail, et qui correspond aux connaissances accumulées par les humains qui travaillent dans une infrastructure donnée, et qui sont mobilisables pour travailler. Donc, et pour s'améliorer par l'apprentissage, la formation d'ingénieur, l'expérience, etc. Et enfin, il y a une troisième variante du capital, c'est le capital immatériel, qui est un terme développé par l'économie du savoir et qui correspond à la valeur accumulée par une entreprise sous forme d'organisation de savoir-faire accumulé ou d'image de marque. L'économie des pays développés dépend de plus en plus du capital immatériel. On parle aussi de capital social, de capital culturel, comme variable explicative de l'amélioration de la productivité ne résultant pas des autres facteurs. Voilà. Voilà pour les différentes formes de capital. Et puis, on a le facteur foncier et on a le facteur travail. Je vais passer un peu de musique parce que on parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je vais vous passer ce soir un rappeur d'Afrique du Sud qui s'appelle Big Zulu avec sa chanson Mfasi Wefefa par Big Zulu et Zi Nxumalo.
Mama, uhambe busuku, abuye kuseni.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs et chères auditrices. Donc un rappeur avec une rappeuse d'Afrique du Sud. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a un foisonnement culturel très important. C'est très créatif et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. C'est vraiment exceptionnel. Donc pour en revenir au facteur de production dont je parlais tout à l'heure, oui, je disais que le type de modèle de croissance à l'asiatique repose sur un postulat excessivement économétrique de l'existence de deux facteurs de production uniques, le capital et le travail. C'est un modèle qui est la source, ce modèle qui relie le capital et le travail pour expliquer la création de richesses, est la source de toutes nos fonctions de production, mais je trouve qu'il est un peu réducteur. Il occulte d'abord le troisième facteur de production, comme je le disais tout à l'heure, le facteur foncier. Jusqu'ici, celui-ci n'a été intégré qu'aux fonctions de production relatives au secteur agricole, chose normale si l'on considère que sans le foncier, on ne peut pas produire de denrées agricoles. Cependant, à notre époque où sont de plus en plus prises en compte dans les processus de production en amont comme à l'aval les considérations relatives à la performance environnementale et paysagère, il semblerait que ce facteur de production doive au contraire être intégré dans toutes les fonctions de production pour tenir compte du coût qu'occasionne la mise en place des techniques et méthodes non polluantes et soucieuses du paysage. J'ai oublié la fonction paysagère, ainsi que de préservation de la biodiversité. C'est une condition importante, ce que Karl Polanyi, déjà cité, nomme le réencastrement économique, à savoir une activité économique en fusion avec le territoire qu'elle anime. Les entreprises sont obligées d'en tenir compte dans leur modèle économique, puisque désormais, depuis les années 90, elles peuvent être soit rémunérées de manière directe par subvention ou indirecte par l'ouverture de nouveaux marchés ou conservation de leur marché actuel, soit pénalisées lorsqu'elles polluent selon le modèle mis au point par Pigou. Il est donc légitime que dans leur calcul de coût de production soit inclus celui correspondant aux mesures à caractère environnemental et paysager que celles-ci suscitent, ou à l'inverse, le coût des pénalités. Ça, c'est le modèle de Pigou, de Arthur Pigou, modèle pigovien, ou de droit à polluer. Ça, c'est le modèle de cause qu'elles ont à leur charge en cas de pollution. Il y a donc une remise en question à faire en ce qui concerne l'explication même de l'activité productive. Celle-ci incluant désormais non seulement la perspective de profit, comme c'est le cas depuis les débuts de l'économie néoclassique, mais également tout ce qui a un rapport avec ce qu'on commence, en notre époque moderne, à appeler les communs. Or, le paysage et l'environnement en font partie. L'Afrique est un territoire encore presque vierge, puisque la majorité de sa population et de ses territoires n'a pas encore eu accès au modèle productiviste et n'est donc pas obligée de faire l'objet de modifications structurelles trop importantes sur le plan macroéconomique. C'est donc un laboratoire important en matière d'innovation sur ce plan. À ce stade-là, notre fonction de production, désormais alimentée d'un troisième facteur, quel que soit le secteur d'activité auquel on s'intéresse, n'est toujours pas satisfaisant. Il convient d'y ajouter un quatrième facteur, sorte de modèle hybride, issu à la fois du facteur travail et du facteur capital traditionnel, le facteur capital humain. Celui-ci correspond aux connaissances accumulées par les humains et mobilisables pour travailler, apprentissage, formation d'ingénieurs, expérience. Donc, le capital humain auquel nous avons ajouté l'innovation qui résulte du travail humain ne se mélange ni avec le facteur capital, même s'il peut porter le nom de capital, ni avec le travail, même s'il en est issu. Cependant, il peut considérablement augmenter la valeur de ces deux facteurs. C'est pourquoi nous le classons comme un facteur de production à part entière. Dans son ouvrage « Economics and Politics in the Israeli-Palestinian Conflict », écrit en mars 2015, un collectif d'auteurs faisant partie du Club d'Aix, qui est sous-entendu Aix-en-Provence à l'université, décrivait une économie de guerre, celle du conflit israélo-palestinien et ses effets dans les économies d'Israël et de la Palestine. Il inventait une nouvelle fonction de production. Il introduisait le capital humain dans la fonction de production, comme l'a fait Robert Merton Solow avec le progrès technique. Robert Merton Solow a réussi la prouesse de résoudre un dilemme très important pour les économistes de l'époque, dans les années 80, puisqu'on ne savait pas comment intégrer le progrès technique pour, en tant que facteur explicatif de la création de richesses, alors qu'il était fondamental. Donc certains économistes avaient décidé qu'on allait le définir comme un résidu qui allait s'ajouter à la fonction de production, mais de manière extérieure. Et en fait, avec Robert Martin Solow, on élabore une formule pour compléter la fonction de production et internaliser le progrès technique dans cette fonction. Et je pense qu'on devrait faire la même chose aujourd'hui avec la performance environnementale. Je dis performance environnementale parce que avant, dans les débuts, dans les années 80, on parlait encore de contraintes environnementales dans les milieux d'entreprise, et aujourd'hui on parle plus positif, on parle de performance environnementale, en ayant compris maintenant que les investissements les plus lourds ont été faits et que les remises en question les plus difficiles à faire par certaines entreprises ont été faites, on peut se permettre de parler de fonction de performance environnementale parce que ça aide à la création de richesses. Et ça contribue largement à créer plus de richesses qu'on en aurait créé si on n'avait pas fait attention à l'environnement. Puisqu'aujourd'hui, la richesse se définit de plus en plus, fort heureusement, par le développement de la qualité et de la valeur ajoutée. Citons un extrait de l'ouvrage Economics and Politics du collectif du Club Dex. Separated from labor input, it increases the marginal productivity of factors which raises the incentive to invest, and as a result, capital increases indirect effects of human capital on output proportional to human capital. Donc je traduis, séparé de la fonction, séparé du facteur travail, le capital, complètement séparé du facteur travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, le capital humain exponentialise la productivité marginale des facteurs de production, ce qui contribue à augmenter l'incitation à l'investissement et donc à l'augmentation du capital et à des effets indirects sur l'augmentation du capital humain, notamment grâce à la recherche et puis bien sûr à la formation. Et l'ouvrage du collectif du Club Dex, de conclure que ce qu'il manquait à l'économie palestinienne, c'est cette richesse que génère le capital humain et l'esprit de créativité ou encore d'innovation cher à Schumpeter à cause de l'état de guerre auquel les individus sont confrontés et, disons-le bien, qu'on leur impose. Et qu'on leur impose de manière assez honteuse au niveau mondial. Hein, et Je n'incrimine pas seulement Israël, j'incrimine l'ensemble des États du monde qui laissent faire. L'idée est là et elle ouvre une nouvelle voie vers l'exponentialisation de la fonction de production, autre que le progrès technique à proprement parler. En bref, là où le progrès technique internalisé au sein de la fonction de production par Solow a montré les limites que nous avons démontrées dans le paragraphe précédent, parce que là je reviens à ma petite histoire de l'économie, forcément quand Robert Merton Solow a réussi à internaliser le progrès technique à l'intérieur de la fonction de production pour en faire un tout explicatif de la création de richesses et montrer qu'elles étaient inséparables, on n'était encore que dans les années 80. par la suite, les méfaits d'un productivisme à tout prix et d'un progrès technique trop important, dénigrant l'aspect richesse, capital humain, richesse humaine, facteur travail, et j'en passe, à cette époque-là, comment dire, après on en a découvert les méfaits, et on s'est bien rendu compte que, effectivement, le progrès technique, c'était bien, que c'était nécessaire de le mettre dans la fonction de production. Et heureusement, aujourd'hui, on a un nouvel enjeu en économie, qui est d'internaliser maintenant également ce qu'on pourrait appeler le facteur environnemental. Ce que moi j'ai osé, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure des solutions et que c'est quelque chose à discuter, appeler le facteur foncier applicable à toutes les catégories d'entreprises de tous les secteurs et pas seulement agricoles. Mais après, on peut discuter de ça et se dire qu'il pourrait exister encore un autre facteur qui serait uniquement lié à l'environnement et à l'utiliser. Parce que c'est pas seulement une question de protection de l'environnement, c'est aussi une question d'utilisation de l'environnement à bon escient. La nature, lorsque on l'utilise correctement et qu'on la protège et qu'on ne l'abîme pas, est très positive et elle exponentialise elle aussi les richesses. C'est lorsque on la prend comme une contrainte et que on l'abîme, qu'elle se retourne contre nous et contre notre monde économique. On voit bien que les différentes tempêtes qui ont lieu souvent à notre époque et les incendies montrent que la nature se rebelle. À l'inverse, les ingénieurs agronomes, qui pour moi sont l'avenir de l'économie, savent très bien que, par exemple, des sols seront beaucoup plus productifs si on utilise des moyens exclusivement écologiques pour les traiter. Mais ça demande des sacrifices et des remises en question à court et moyen terme qu'on n'a pas encore réussi à franchir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait quand même de gros progrès depuis les années 80. Et donc il s'agit donc pas uniquement de protéger, mais aussi de savoir utiliser la nature à bon escient pour qu'elle contribue elle aussi à la production de richesses. Vous verrez, dans 100 ans, on sera arrivé à une économie complètement vertueuse qui sera en fusion et en harmonie avec la nature. Mais ce n'est pas encore le cas, mais bon, ça commence beaucoup par l'agriculture. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que en utilisant ce facteur de production-là, en mettant en avant ce nouveau facteur de production, dont la définition est encore à discuter, et pour lequel la manière de l'intégrer à la fonction de production est aussi à discuter, ça c'est pas fait comme ça pour le progrès technique non plus, ça peut vraiment apporter quelque chose de très très positif à l'économie. Et si j'en parle ici, c'est parce que je pense que les États africains devraient pouvoir en profiter parce qu'ils ont ce qu'on appelle des aménités environnementales, ou parlons plutôt en termes d'échange international en fonction du modèle de David Ricardo et parlons d'avantage comparatif. Les États africains ont un avantage comparatif très important en matière environnementale et donc cet avantage comparatif-là pourra leur apporter quelque chose de plus si on arrive à aller vers une internalisation la fonction de ce nouveau facteur de production dans la fonction de production. Voilà. Donc je disais, le progrès technique lui a montré ses limites. Il y a une fâcheuse tendance du capitalisme à se trouver toujours, malgré ses efforts pour subsister, confronté à la fatalité des rendements décroissants, ce que Karl Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Le vrai libéralisme, sans coût de transaction et sans externalité négative, est amené à se développer sans cesse, si l'on respecte les règles de la libre concurrence, c'est-à-dire pas de monopole, pas d'échange inégal, générer les crises qui ont marqué le monde capitaliste, et cela grâce au dynamisme sans faille qu'apporte le capital humain et la créativité. Cette dernière est déjà fortement présente au sein des toutes premières mesures visant à rendre les entreprises locales européennes viables et sans cesse innovantes. C'est un des critères utilisés pour qualifier les nouveaux pôles industriels de compétitivité, sachant que, chers auditeurs, il y en a aujourd'hui 48 en France. Voilà. Alors, au capital humain et à la créativité, bien sûr, il faut rajouter, bien sûr, la performance environnementale, c'est très important. Pour parfaire encore davantage la boucle de ce que j'appelle un modèle de croissance perfectionné, il convient d'ajouter ce qui jusqu'ici n'était qu'internalisé dans la fonction de production en tant que coefficient, selon le modèle cher à Solow, Robert Merton Solow, qui, je le rappelle, j'ai déjà dit plusieurs fois, tente d'expliquer le progrès technique par la à internaliser le progrès technique dans la fonction de production. En fait, je me suis trompée, c'est pas Robert Merton Solow, pardon, qui a endogénéisé le progrès technique. Robert Merton Solow, lui, il cherchait une façon de tenir compte du progrès technique dans la fonction de production pour montrer pourquoi on arrivait à contrer les rendements décroissants grâce au progrès technique et donc à rester productif longtemps. Et sachant, je le dis tout à l'heure, on finit toujours par avoir des rendements décroissants quoi qu'il arrive avec ces modèles-là. Et c'est lui qui avait mis en avant la théorie du résidu. Je vous demande pardon. Et ensuite, c'est la nouvelle économie classique avec des gens comme Robert Lucas qui se sont servis du capital humain comme substitut du facteur travail pour endogénéiser le progrès technique dans la fonction de production. Il faut opérer une distinction entre facteur travail, ce dernier restant un facteur de production mesurable en heures ou en intensité de travail, et le capital humain, nouveau facteur production, mais également entre le capital humain ou capital tout court et le progrès technique. Ce dernier devrait pouvoir être mesuré sous forme de coefficient comme un plus à apporter au processus de production, en plus des innovations déjà incluses dans les outils, les machines et le matériel utilisé, tout comme dans les méthodes d'organisation du travail et le plus apporté par les innovations visant à faire fructifier le capital humain. Le progrès technique, outre ce qui est déjà existant et inclus dans les éléments qui font partie du processus comme éléments positifs issus du passé et de la diffusion sociétale des innovations, doit aussi se mesurer à la capacité de l'entreprise à procéder à de nouvelles innovations et cela doit être quantifiable. On devrait ainsi pouvoir chiffrer ce que la modernisation de son entreprise a coûté à chaque entrepreneur dans l'année. Achat de nouvelles machines, nouvelles installations, nouveaux procédés, nouvelle organisation du travail. De nouveaux processus relatifs à la... Je m'arrête là, juste pour dire que ce que je viens de dire pour le progrès technique, c'est valable aussi pour la progrès, la performance environnementale, et que les nouveaux processus relatifs à la contrainte environnementale ou paysagère, pareil, doivent être intégrés dans le coût de production par unité d'un bien produit. C'est donc pour ça qu'il est aussi important de chiffrer le coût de la performance environnementale de chaque entreprise. On obtiendrait alors un coût de production bien plus fidèle à la réalité, obligeant par là même à revoir les modes de calcul de la valeur ajoutée produite et permettant une meilleure répartition du coût de la production entre producteurs et distributeurs ou consommateurs via l'ajustement par les prix du coût réel de la production et donc de cette performance environnementale. Et donc, forcément, ça se reflèterait sur l'économie entière, et notamment, ça se reflèterait dans les produits intérieurs bruts, et ce serait des États, puisque je rappelle que le produit intérieur brut d'un État, c'est la somme des valeurs ajoutées, et ça permettrait de chiffrer exactement le coût de la performance environnementale et son apport. Puisque si on quantifie le coût de la performance environnementale pour les entreprises, qu'on répercute ce coût sur les distributeurs et les consommateurs et qu'on le retraduit dans les modèles de comptabilité, dans les tableaux de comptabilité nationale, forcément, on devra tenir compte également de l'apport de la performance environnementale de chaque production. Et donc de l'apport de la performance environnementale à la valeur ajoutée. Et donc cela aussi doit être comptabilisé en plus dans les tableaux de comptabilité nationale, alors que ce que ça a coûté doit être comptabilisé en moins. C'est pour cela, pour cette raison-là d'ailleurs, et pour la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la nature se venge et qu'on a intérêt et que la performance environnementale, c'est pas seulement protéger l'environnement, mais aussi savoir l'exponentialiser et se servir de ses richesses pour produire mieux et produire avec plus qualitatif. Ça contredit les modèles, le modèle causien qui veut que les entreprises aient le droit de polluer, mais payent des taxes en échange. Une entreprise, si on autorise une entreprise à polluer, qu'elle paye des taxes, bon, au début, le modèle a été intéressant pendant une trentaine d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait passer à autre chose de manière progressive pour éviter qu'il n'y ait pas de pollution, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution du tout. Arthur Pigou. Il y a un autre modèle qui était le modèle de cause qui avait été très développé et qui on en parlait encore beaucoup en 2015, qui sont les droits à polluer. On paye des droits à polluer et ces droits à polluer servent ensuite à dépolluer d'autres régions du monde. Et ça, c'est le modèle de cause. Aucun des deux modèles, pour moi, n'est valable. Enfin, ce sont des modèles de transition qui permettent aux entreprises de s'en sortir sans trop abîmer l'environnement dans leur progressivité. Mais je pense que c'est un modèle qui a fait ses preuves et dont on devrait voir l'issue dans quelques années. C'est d'ailleurs bien, je pense, le pli que prennent la majorité des politiques économiques, d'abord dans le secteur agricole, mais de plus en plus dans le secteur industriel, même si c'est encore que des gouttes d'eau dans l'océan. L'ajustement par les prix est très vrai en agriculture, parce qu'en agriculture, la théorie de la filière inversée n'est pas applicable. Une orange, c'est une orange, une pomme, c'est une pomme, une banane, c'est une banane. On ne va pas faire des bananes bleues pour qu'elles se vendent mieux, pour faire vendre un nouveau produit. Et c'est donc la théorie de la filière inversée, c'est ça, c'est lorsqu'on invente de nouveaux produits sur des produits qui existent déjà, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui change, on a juste un petit peu modifié l'aspect ou la performance du produit en question. Ça a été très longtemps le cas lorsque les économies liées aux télécommunications des téléphones portables se sont développées. Pour pouvoir survivre et se développer, les grosses entreprises qui fabriquaient des téléphones portables sortaient tous les 6 mois un nouveau modèle qui était très médiatisé, on le voyait partout, sur les affiches, à la télévision, etc. Et donc tous les 6 mois, il fallait changer de téléphone portable pour avoir quelque chose de plus performant. Ça se diffusait beaucoup, notamment dans les milieux branchés ou dans la jeunesse, et ça coûtait très cher. Et ça, c'est de la filière inversée, c'est-à-dire qu'on crée de nouveaux besoins et de nouveaux produits, alors qu'on en a, c'est pas vraiment, mais bon, c'était une stratégie de développement de la firme. Même chose, l'obsolescence programmée, c'est une autre stratégie de développement de la firme qui fait qu'on produit des choses, par exemple du matériel électroménager. Un matériel électroménager des années 60, souvent, fonctionne beaucoup mieux, va durer beaucoup plus longtemps qu'un matériel électroménager qui est neuf, est fabriqué à notre époque, parce qu'aujourd'hui on pratique beaucoup l'obsolescence programmée, pour que le consommateur, une fois qu'il s'est équipé, ça ne dure pas trop longtemps, et donc certaines biens durables deviennent des biens semi-durables, c'est-à-dire de consommation des biens semi-durables, c'est-à-dire qui ont une durée de vie très moyenne, 5 à 6 ans, alors qu'autrefois ça durait beaucoup plus longtemps, c'est de l'obsolescence programmée. Donc je disais, en agriculture, on ne peut pas, on n'a pas le choix, on ne peut pas se développer les entreprises avec ces moyens-là, sauf peut-être dans l'agroalimentaire, en sortant par exemple des nouvelles formes de frites tous les 6 mois. Mais on peut très difficilement se servir de ces techniques d'augmentation en puissance de la firme. Et donc, peut-être un tout petit peu dans l'industrie agroalimentaire, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que dans l'agriculture, et tant mieux, c'est un secteur qui est pionnier, et là où c'est là que agissent les ingénieurs agronomes, on est obligé, pour créer de la richesse, de mettre en avant la performance environnementale. Et donc, c'est un secteur qui se veut modèle pour le reste des secteurs de l'économie. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. J'espère, chers auditeurs, que cette émission vous a plu. Celle d'économie, moi, ça me passionne. Donc, voilà, j'essaie d'en faire profiter les autres. Là, c'est l'Afrique. Plus tard, on parlera d'autres choses. Je vous dis à la semaine prochaine et on continuera sur la même thématique. À très bientôt.